6h du matin, le cadran sonne. J'ouvre la radio. Trop de musique. Je change de poste pour entendre parler.
Oh oui, encore des taxes, ben oui.
Ça fait que chialer. Du coup, j'ai fermé la radio. Ma copine me dit:
voyons, pourquoi t'as fermé la radio?
Je lui ai dit, c'est pas pour moi. Au travail, j'ai parlé de mon problème à Jean-Steve. Il a toujours de bons conseils.
10% de ta paye, drette dans un CELI.
Il m'a parlé d'une radio.
Connais-tu ça, Boulevard 102?
Je lui ai dit que non. Il m'a dit:
non, faut que t'écoutes ça.
Bref, maintenant j'écoute Boulevard 101. Merci Jean-Steve.
Boulevard 101. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102. En espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble puisque j'ai le plaisir d'accueillir Marc Dupré. Salut Marc.
Salut.
Très content de t'accueillir. Puis ce qui m'a marqué, la première chose qui m'a marqué de toi, c'est ta simplicité puis ta gentillesse. Puis c'est l'effet que tu fais aux femmes quand on se promène dans une entreprise.
Colin, oui. Je le vois pas, ça.
Tu le vois plus?
Non, faut que tu me donnes un petit coup de coude.
Tu vois? Ah oui?
Je remarque plus ça. Non. C'est peut-être avoir été marié 23 ans, mais j'avais comme pas le droit d'y penser.
Ouais.
Non, mais moi, non, là, c'est sûr, la simplicité, là, pour moi, c'est super important. Je fais un métier que j'aime, mais je considère pas que ça me donne le droit d'être une vidange. Tu
comprends? Exact.
Chanceux, tu sais. Je veux dire, les gens qui. C'est beaucoup les gens qui ont fait que j'ai pu faire ce métier-là, tu sais, puis j'ai été aidé par beaucoup de monde, puis tout ça, fait que j'essaie toujours d'être un bon gars, tu sais, quand même, dans la vie, là. T'arrives, tu dis bonjour comme il faut aux gens, avec qui... Tu sais, comme pour moi, venir faire ça, tu sais, c'est bon pour moi aussi, tu sais, c'est... Je suis bien accueilli, puis tout ça, puis je veux pas être...
On est content que tu sois avec nous autres pour 60 minutes. J'ai une multitude de questions à te poser. De un, bienvenue à Québec.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce qui t'amène à Québec?
Ben là, je suis en spectacle au Capitole, un nouveau spectacle d'humour. Je suis au Capitole ce soir, demain, la semaine prochaine. Je fais comme 5-6 spectacles là, ici, dans ma deuxième maison.
Ta deuxième maison.
Ah ouais, j'en ai donné des shows au Capitole, un puis un autre.
Oui, puis c'est une super belle salle de spectacle.
Ben moi, au-delà de ça, là, c'est que j'ai comme un attachement particulier avec la salle. J'ai commencé ici. Moi, j'ai le premier show de télé que j'ai fait, c'était au Capitole. Ça s'appelait Les Étoiles du Capitole. C'est Robert Marnier qui animait. C'est un concours, en fait. C'est carrément un concours télévisé.
OK.
Puis,
c'était en quelle année, ça? Tu te rappelles-tu des dates?
Écoute ça, là, c'était en 80...
90, peut-être?
Non. Peut-être plus, peut-être, je dirais le 92-13, quelque chose comme ça. Là.
Okay.
Début, écoute, j'avais pas commencé. Là. Je commençais là, mes premiers balbutiements en humour. Là.
Ouais. Puis quand tu es à Québec, y a-tu des secteurs que tu tiens? T'sais, la rue Saint-Jean, c'est un bel endroit. La Grande Allée, Saint-Joseph, c'est grandement développé dans les dernières années. Là.
Écoute, moi, je me suis tenu pas mal sur Grande Allée. Là. Ça a été ça.
Mais tu t'en souviens-tu?
Chris, oui. Je m'en souviens. Écoute. Ben, c'est pour ça que j'aimais tant Québec, parce que moi, j'étais un gars de la région. Tu comprends? Moi, je viens de Terrebonne, La Plaine. Tu sais, si tu vas aller à quelque part, il faut que tu prennes ton char, il faut que tu prennes un taxi, il faut que tu prennes l'autobus. T'sais. Fait que moi, quand j'arrivais à Québec, tout était à ma portée. T'sais. Je pouvais faire mon métier. J'habitais dans la salle où je faisais mon show. J'ai toujours habité au Capitole. Le Il Teatro, c'est un de mes restaurants favoris. Tu sais, quand j'ai commencé dans le métier, moi, je mangeais, comme tout le monde, du pâté chinois puis de la lasagne. Puis là, tout d'un coup, c'était des magnifiques pâtes, puis on était reçus. Tu sais, un risotto, tu sais, écoute...
Oui, puis le propriétaire de l'époque, je sais pas s'il a vendu, je pense que
Jean,
vendu.
Jean Pilote, oui.
Jean, il habitait là aussi, puis il était là. Extrêmement accueillant, que ce soit avec la clientèle ou encore avec ses artistes, là.
Extrêmement. C'est probablement le producteur le plus fun, drôle et gentil que j'ai rencontré dans ce métier-là. Et comme tu dis, c'est toujours super bien occupé de moi. C'est un ami, là. C'était pas un producteur là, après quelques années. Là. Je veux dire, j'y allais tellement souvent qu'il nous accueillait toujours de belle façon, tu sais, puis invité au restaurant, puis m'envoyait une petite bouteille de vin, puis let's go. Puis même quand il était pas là, il avait mis des caméras, lui. Fait que quand il était pas là, il checkait ses caméras. Moi, j'arrivais à manger là, tu sais, une semaine normale, je passais par là pour aller à Saint-Georges, peu importe, j'arrêtais au Capitole. Le serveur arrivait, il disait « Jean, viens de te voir » et il t'envoie une petite bouteille de vin. Je faisais salut à la caméra. T'es... Méchant bon gars. Mais le Capitole, pour moi, ça a été des belles rencontres. J'ai vécu les plus belles années de ma carrière d'imitateur, soit dit en passant, quand j'ai commencé là. Tu sais, juste pour te dire, mettons, j'étais en tournée, là. À Montréal, j'en ai peut-être une 15-20 shows dans une tournée.
Ouais.
Au Capitole, c'était 60. Tu comprends? Il y avait un engouement pour moi ici.
Tu connectais avec le monde au Québec.
Ben raide. Okay. Tu sais, je sortais, j'allais à la Grande Allée, au DAG. Moi, j'allais faire le DAG. Là. Mm. J'allais là tout le temps. Je connaissais tout le monde.
Tu vas là aujourd'hui.
J'ai de l'air d'un vieux crouton. Qu'est-ce qui vient faire là, le bonhomme?
C'est un policier.
T'as une police undercover.
Il y avait le Maurice qui fonctionnait à la planche dans le temps.
J'allais là.
Avec le Charlotte en haut.
J'allais au Charlotte en haut. Il y avait une table de poule dans le temps, puis j'allais là. Je me souviens, j'allais là souvent. J'étais beaucoup en tournée en même temps que Patrick Huard. C'était ton premier show, mon premier show, c'était en même temps.
Ouais.
Lui était au théâtre en face du Capitole. C'est la salle de spectacle en face.
Palais-Montcalm.
Puis on se rejoignait après
au Maurice.
Au Maurice en haut.
Au Charlotte.
Souvent, Charlotte, c'est ça. Puis souvent, il n'y avait pas grand monde en haut. Tu sais, ça dépendait des journées. Fait qu'on allait jouer au pool. Là, on était bien, on prenait un verre. J'ai toujours aimé Québec, les restaurants, les marchés.
Fait que c'est des beaux souvenirs. Moi, t'es arrivé dans ma vie à travers la télé ou encore à travers la radio. On me parlait d'un jeune humoriste. Je ne me souviens pas s'il t'avait traité de jeune humoriste de la relève, mais il parlait d'un jeune humoriste, un gars qui était capable de faire des imitations, qui était excellent et tout ça. Sais-tu la carrière que tu voulais, celle que tu as actuellement? Tu sais, parce que ça fait des décennies que tu fais partie de nos vies, que tu es un artiste, puis ta carrière s'est transformée au fil du temps.
Oui.
Avec du recul, tu te dis, c'est exactement ça que je voulais ou bien il me reste encore
il me reste encore beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais c'est encore mieux que ce que j'aurais voulu. Moi, j'étais un jeune garçon qui était beaucoup dans sa tête. T'sais, moi, à l'école, je fitais pas là, tu comprends? Là.
Non, ça marchait pas.
Non, ça marchait pas. J'étais toujours en train de penser à quelque chose, imaginer quelque chose. J'étais un rêveur, tu sais, puis ça faisait pas l'affaire des gens. Parce que je cherchais toujours à faire rire les autres, mais c'était jamais méchant. T'sais. C'est juste que moi, dans ma tête, là, j'aimais que les gens rient autour de moi. J'aimais l'attention. J'aimais faire rire mes chums, j'aimais faire rire mes amis. Puis des fois, je le faisais en sachant que ça m'apporterait du trouble, mais c'était plus important pour moi d'être le gars qui le bout en train, puis faire rire, puis tout ça. Fait que j'ai eu de la difficulté à l'école, puis tout ça, mais...
Les profs t'entretenaient vigueur?
Ah oui, oui. Ah ouais. Moi, j'ai été sorti plusieurs fois de ma classe, puis des retourné chez moi, puis j'étais pas aimé par les professeurs. Fait que c'était dur.
Ouais. Les choses ont changé aujourd'hui parce que l'année passée, je parlais avec une professeure, d'un de mes gars, puis elle parlait d'un élève en particulier. Puis moi, je suis toujours attentif aux individus à savoir, tu sais, c'est quoi leur valeur? Puis, OK, c'est à peu près les mêmes valeurs que moi ou non, je suis complètement à l'opposé. Puis elle a dit, j'ai un élève dans la classe, peut-être que ton petit t'en a parlé, il dérange tout le monde, mais c'est un gars qui est extrêmement pétillant. C'est probablement un artiste et tout ça, il est tout le temps en train de dessiner tout ça. Je veux vraiment pas éteindre son étincelle. Je veux qu'il continue de briller. Et là, je me suis dit, hey boy, t'sais, moi, dans les années 80 à l'école, si j'avais décidé de déranger les gens ou si j'avais décidé d'achaler le professeur, on passait par-ci et par-là. Fait que les gars créatifs.
Il soulevait sa chandelle, il y a rien qui brillait là.
Les gars créatifs comme toi, les artistes, ils l'avaient pas facile dans ton temps.
Non, moi, c'était super difficile. Moi, j'ai dû. Ça a été un combat de... C'était tough parce que. Je voulais, tu sais, moi, je voulais réussir dans la vie, mais j'avais déjà mon idée du métier que j'allais faire. Fait que ça m'a aidé de savoir. Moi, je savais que je voulais faire ça. Je savais que je voulais faire rire les gens. Je savais que je voulais être sur une scène très jeune. Je te parle à l'âge de 10-11 ans. Mm-hmm. Je voulais faire ça. Heureusement, ça a fonctionné. Ça aurait pu être désastreux parce que...
T'avais-tu un entourage propice à ça, à t'encourager là-dedans?
Oui.
Ouais.
Ouais. Dans ma famille, je viens d'une famille de Gaspésiens, moi, tu sais. Fait que tu comprends que... Là, je l'avais, mon public. Là. J'avais mon public. Moi, ma tante, là, c'était des fans finis de Marc, de Timarc, Marco. Dès qu'il y avait la chance, il me grimpait sur une table, puis let's go. De tout très, très, très jeune, parce que c'était juste des femmes. Il y avait comme 22 filles, 3 gars, tu sais. Puis moi, j'étais le premier gars. Ma mère a eu ma soeur, puis après ça, moi. Fait que j'étais le premier gars de la gang, puis j'étais un petit qui déplaçait de l'air. Fait qu'eux autres, ils capotaient mes tantes. C'était comme...
Donc, ils t'encourageaient là-dedans plutôt que de te décourager.
Ben, exactement. Mais mes parents, eux autres, mon père en particulier, lui, il trippait pas tant que ça, tu sais.
Mais lui, c'était la sécurité. Il voulait que tu aies un job.
C'est ça. Mon père, lui, ça n'a pas été facile, sa jeunesse. Moi, mes parents m'ont eu très jeune. Ma mère m'a eu à 18 ans, mon père à 19. Ils ont eu ma soeur à 17, tu comprends? 18, mon père. Fait que, tu sais, il n'a pas eu de jeunesse, mon père, tu sais, malheureusement. Puis lui, c'est un musicien, il aurait voulu faire ça dans la vie, il n'a pas pu. Ça a été difficile, il a fallu qu'il se trouve une job autre que ce qu'il voulait faire dans la vie. Fait que, tu sais, ça a été tough, puis je pense qu'il ne voulait pas ça pour moi, tu sais. Tu sais, j'ai suivi un peu ses traces, je veux faire de la musique, je veux faire ci, je veux faire ça, très jeune. Puis, tu sais, il disait, oui, mais OK, mais t'as besoin d'un plan, là.
Puis, c'est-tu en vieillissant que tu comprends ce que ton père voulait? Oui. Parce que j'imagine que quand t'avais 17, 18, puis ton père était un peu inquiet, tu disais, ben là, le père, empêche-moi pas d'avancer. Mais quand on vieillit, puis quand on a des enfants, on regarde ça, puis on dit, OK, ouais, je comprends ce que nos parents ont fait pour nous.
Bien, certain, c'est clair que je comprends. Moi, mes enfants, c'est la même chose. Mais la seule différence entre mon père et moi, c'est que. Moi, j'ai fait ce métier-là dans la vie. Fait que malgré tous les obstacles qui sont arrivés devant moi, parce qu'il y en a eu beaucoup, tu sais, parce que là, j'ai décroché de l'école. Si tu vas pas à l'école, t'as un job. J'avais plein de jobs. Tu sais, tout ce que j'avais, c'était un rêve, moi. Tu sais, j'avais pas d'études. J'ai fait secondaire 4, tu sais, tu comprends? Puis même là, j'avais... Fait que j'ai décroché jeune. J'avais pas de métier, j'étais pas bon dans rien parce que moi, tout ce que j'avais dans la tête, c'était de faire ce métier-là. Ouais. Fait que dès que j'avais du temps de libre, j'allais pratiquer mes imitations. Je manquais ma job parce que j'avais travaillé sur une nouvelle voix, je capotais, je l'avais bien, j'avais juste hâte de me réveiller le lendemain pour pratiquer mieux. Tu sais, puis là, bing, bang, bing, bang. Les moi, je voyais tout ça.
Les boss, étaient-tu compréhensifs quand t'es appelé pour dire, là, j'ai fait une imitation, hier, non. Ça fonctionne.
Pas en tout, ça colle, c'est vrai. Tu m'as imité un gars, Chris dehors, moi. Non, mais j'ai travaillé dans un dépanneur de nuit, puis il y avait des caméras, j'en parle d'ailleurs dans mon show, tu sais. Il y avait des caméras, puis moi, je pensais que les caméras servaient à rien, c'était là, juste là pour faire peur au monde, puis j'ai travaillé là quelques mois, tu sais. Puis ils m'avaient tout enregistré. Moi, je faisais juste ça la nuit. Il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de client, tu sais. Je devais passer à moi, mais je ne le faisais pas. Je pratiquais mes imitations, il y avait la radio qui jouait à tous les soirs, je pratiquais mes tunes, je pognais une O'Henry, je pognais à mob, j'allais dans les allées, je dansais, je sautais, je faisais tout, tu sais. Et je ne savais pas, mais lui, il avait tout enregistré ça. Puis au party de fête, au party de bureau du dépanneur, il a passé ça, toi. Il a fait un montage de mes meilleurs moments, puis il a passé ça devant les employés. Je capotais bien raide.
Le monde devait halluciner.
Ben, moi, sur le coup, j'avais honte à mort, tu sais.
Mais non.
Mais je voyais le monde triper. J'étais comme star de la soirée, là. C'était comme... Puis lui, il m'avait dit, t'as un asti de talent. T'étais vraiment talentueux, mais tu travailles plus pour moi, tu fais rien. Ça a cru droit.
Mais quand même, juste cette phrase-là, c'est quelque chose de marquant dans ta vie en disant « Hey man, t'as du talent. »
Ouais, ouais, ouais. Puis, c'était donc... le premier, ça, qui m'a vraiment, qui a vraiment vu que j'avais quelque chose, puis il me dit « Écoute, faut que tu fasses ça dans la vie. Là. Laisse faire le dépanneur de nuit. »
Donc, toi, t'es pas le type de gars à avoir des plans B. T'avais un plan A, tout simplement. Ouais. Comment est-ce que t'étais à l'école de l'humour au départ pour essayer de créer des contacts?
J'ai essayé, j'ai été refusé. Moi, j'ai été refusé à l'école de l'humour, juste pour rire. Probablement parce que j'étais partout sauf prêt. Là, t'sais, mais, t'sais, moi, dans ma tête, j'étais prêt, mais j'avais personne qui m'avait aidé. Tout ce que je faisais, c'était des imitations, puis une couple de Joe Platt autour de ça, puis c'était ça mon affaire, t'sais, pour l'instant. Mais là, mon père m'a obligé à aller. Il a vu ça dans le journal, il m'a dit écoute, il faut que tu ailles là. T'sais, je te donne une dernière chance. T'sais. Va là, puis après ça, sinon, il faut vraiment que tu trouves vraiment un vrai plan, là, mon homme. Là, j'étais rendu à 18 ans, là, 19 ans. Là, il commençait à trouver que ça y allait pas, mon affaire. C'est-à-dire que je travaillais dans un garage, je travaillais dans des dépanneurs, je travaillais dans une usine de bonbons. Mais tu sais, moi, j'avais pas rien dans tu sais, mon avenir, pour moi, était tracé. Je savais que je voulais faire ça, mais j'avais pas rien de concret. Donc, il m'a dit, va là. Fait que j'étais allé là, j'étais pas préparé. Ils ont ri, ils m'ont trouvé bon. Moi, ils m'ont appelé pour me dire, ça fonctionnera pas. On veut des élèves un peu plus près de leur but. Tu ne l'es pas. Donc, travaille là-dessus, puis reviens nous revoir. T'sais. Et là, je capotais. Là, je pensais que c'était fini, que la porte était fermée. Puis finalement, j'ai eu une opportunité de faire un truc. Puis il y avait un gars de Juste pour rire qui était là, qui m'a vu comme quelques mois plus tard. Puis l'été d'après, j'ai fait des galas Juste pour rire, puis j'ai été révélation du festival Juste pour rire.
OK. Mais juste pour être sûr là, que je suis bien, t'es allé à l'école de l'humour, ça n'a pas fonctionné.
J'ai été refusé. Fait que je ne suis pas allé à l'école.
OK.
Ils m'ont refusé.
Donc, t'es refusé, mais là, toi, t'es sorti de là en disant, mais voyons, qu'est-ce qui arrive? Mais t'as continué. T'as fait des spectacles.
Je faisais pas de spectacle. Je faisais des petits trucs dans des bars, concours, des patentes. Mais j'ai eu l'occasion avec quelqu'un, un ami à moi qui avait un restaurant, puis il me disait, si tu veux venir faire des petites affaires le dimanche, un petit 10 minutes le dimanche pendant la fesse de bœuf à volonté. C'est ce que j'ai fait. Puis il y a quelqu'un qui était là, qui m'a vu, qui était juste là pour manger, puis qui m'a dit wow, tu pourrais venir faire un truc. Puis tu sais, en tout cas, tu sais, là. En fait, le gars qui était là, c'était Guy Cloutier. Okay. C'est lui qui m'a vu dans le restaurant. Fait
qu'il, il était à la bonne place au bon moment.
Là, il m'a invité aux Étoiles du Capitole, puis là, bing bang, puis là, j'étais allé faire le... l'été d'après, j'étais au gala juste pour rire.
Okay.
Puis j'ai été révélation du gala. C'était dans le front page du Journal de Montréal. Là. Révélation du gala juste pour rire. De juste pour rire cette année, puis l'année d'avant, j'avais été refusé à l'école. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme, OK, c'est possible pareil, même ouais. si t'es refusé à quelque part.
Puis c'est une belle histoire pour les ouais. gens qui se font dire non.
Ben
puis,
oui, t'acceptes pas ça.
Ça se peut que là, c'est non, mais ça se peut que dans un an, ça soit oui.
C'est
puis il y a d'autres personnes qui vont voir du potentiel en toi, même si c'est pas cette personne-là. Puis ça a été le cas pour toi. Mais ça te faisait pas peur de t'adresser à 10, 15 personnes. Tu disais, ben moi, je travaillais au dépanneur, je faisais des niaiseries avec ma barre au Henry, je faisais des imitations. Le gars décidait de m'enregistrer, mettre ça au party d'employés. T'as eu honte parce que tu disais, mais voyons, c'est mes affaires personnelles et tout ça, mais tout le monde était bien crampé.
Ouais.
Comment tu t'es habitué, le petit gars qui était un peu gêné, comment tu l'as habitué rapidement à être capable de faire des prestations devant 10, 15, 20, 30 personnes?
Honnêtement, je ne sais pas, ça s'est fait naturellement. J'avais tellement ce rêve-là tout le temps. Tu sais, quand ça allait pas bien, je me repompais en me disant, de toute façon, je sais ce que je vais faire dans la vie, je sais que ça va être correct. Quand il arrivait quelque chose de difficile avec mes parents ou n'importe quoi, une discussion qui va là, faut que je me trouve une job, faut que je paye un montant à la maison, tout ça. Puis ça allait pas bien, je me disais tout le temps, de toute façon, j'ai mon plan, ça va être correct. C'est toujours ça qui m'a sorti un peu de la merde, tu sais.
Ton mindset.
Mon mindset, puis qui m'a gardé. T'sais, j'ai continué à rêver. Fait qu'on dirait que quand je suis arrivé sur scène la première fois, comme pas longtemps après l'affaire de Juste pour rire, j'étais au Forum en première partie de Céline Dion devant 8000 personnes par soir. J'ai jamais fait un show devant plus que 40 personnes, tu comprends?
Ouais.
Je pensais pas être capable de le faire. Quand je ça fait partie de mon cheminement, let's go. Puis quand je suis arrivé sur scène, j'ai pas rodé, moi, là, j'ai pas rien fait. Juste montré une petite cassette à René qui me dit « Ça va être bon, ça va être parfait.
Ouais. »
J'étais arrivé là, puis j'ai fait « OK, je serais pas capable de faire ça. » Puis il y a eu un déclic dans ma tête, je me suis dit, c'est pas vrai que j'ai tout remis en question les trucs en me disant que parce que j'avais de quoi dans la tête et j'allais le faire, qu'aujourd'hui, quand la possibilité arrive, je vais te choquer. Fait que j'ai pas te choquer.
Time to shine.
Ouais, je suis passé du gars qui voulait vomir sur le bord du stage à shaker, j'étais plus capable, je me souvenais plus de rien, de ce que j'avais à dire, puis tout ça, à j'ai fait, OK, let's go. C'est le temps. Pour moi, là, il faut que je score si je veux gagner la Coupe Stanley. Tu sais, dans ma tête, je me suis dit, je suis en finale de la Coupe Stanley, le but est là, il n'y a pas de goaler. Slap shot, top net, puis on n'en parle plus. Puis, heureusement, c'est ça qui est arrivé. Ça a été un hit terrible.
T'as-tu regardé la cassette après?
Non.
Non?
Jamais. Je regarde jamais rien après.
Mais tu t'en souviens-tu?
Parfaitement.
Encore? Ah oui, OK.
Par cœur.
Parce qu'il y en a qui sont faits différemment. Moi, je suis complètement fait différemment. La semaine passée, c'était le lancement de la programmation.
Okay.
Il y avait des changements dans la programmation qui faisaient en sorte que ça pouvait peut-être amener un stress peut-être supplémentaire. Si tu me demandais ce que j'ai fait la semaine passée, je me souviens même pas des invités que j'ai eus. Là.
Ça, je comprends. Ça m'est arrivé plus tard.
Okay.
Ça m'est arrivé. Ça, c'est dans le tourbillon de faire trop d'affaires, dans mon cas, moi.
Ouais.
Quand je me souviens plus de ce qui est arrivé, c'est parce que... En fait... La plupart du temps, je me dis, OK, je l'ai fait. J'ai okay. passé à travers. Mais normalement, les bons coups, je m'en souviens. T'sais. Puis je garde ça en souvenir pour justement quand ça va aller moins bien. Tu comprends? Mais.
T'en as-tu fait longtemps des bars, des petits 10, 15 minutes? Non.
Pas en tout. Je peux compter sur les doigts de mes deux mains.
Moins de 10.
Moins de 10.
Puis après ça, t'as grimpé très rapidement.
Paf.
Les gens, parce que là, toi, tu faisais partie de la classe moyenne, t'es arrivé dans un merveilleux monde que tu connaissais pas encore, mais c'était le métier que tu voulais faire. Quand tu rencontrais un gars comme Guy Cloutier, qui à l'époque était un monstre incroyable dans l'univers artistique, ces gens-là, est-ce qu'ils te traitaient convenablement? Est-ce que c'était des gens qui étaient très respectueux?
Très respectueux. En fait, ces gens-là m'ont aidé, tout simplement. Ils m'ont juste donné une opportunité. Ils m'ont pas, tu sais, Guy Cloutier ne m'a jamais proposé de travailler avec lui ou de son... Non, non. Lui, il voulait aider un jeune là, qui était bon, qui l'a trouvé bon. Puis il m'avait invité aux Étoiles du Capitole, j'avais perdu. Quand lui était sûr que j'allais gagner, fait qu'il m'a dit, là, je t'en dois une. Puis c'est lui qui a appelé René pour dire, tu devrais prendre ce jeune-là qui me connaît. René me connaissait pas pantoute. Il a dit, j'ai un jeune qui est venu, il est vraiment bon. J'ai en dois une, tu peux-tu m'aider? Ben oui, il m'a appelé, René m'a appelé, il m'a dit, je sais pas t'es qui, mais ça là, t'es bon. Envoie-moi une cassette. J'ai envoyé une petite cassette que je me suis enregistrée moi-même avec un handycam. Puis il m'a dit, parfait, fais ça, ça va être bon. Il me donnait juste une opportunité, tu sais. Il aidait son chum qui, lui, voulait me donner une opportunité à moi parce qu'il m'avait promis que je serais de gagner le toit du Capitole. Tu sais, big deal. C'est tout. Puis ça a fait « pow ». Je veux dire, c'est juste... J'ai juste sauté sur l'occasion qui m'était prêtée, là, de petits 15 minutes, 12 minutes que j'avais à faire pour la partie Céline pour créer tout ce qui est arrivé par la suite.
Puis quand t'as un gars comme Ronan Angela, qui était un monstre aussi, là, je veux dire, c'est un grand qu'on a eu au Québec, quand il t'appelle, ça te prend combien de temps avant de répondre?
Ben, il n'y a pas l'afficheur dans ce temps-là, donc j'ai répondu tout de suite. T'sais.
Tu pensais que c'était ta mère, finalement, c'était Ronan Angela.
Oui, puis le pire, c'est que moi, je le connaissais même pas, Ronan Angela. Tu sais,
Je savais pas c'était qui?
À peu près comme tout le monde. C'était le gérant de Céline Dion avec une petite couette. En arrière. Ouais. C'est moi, c'était ça. Là. Je
connaissais c'est vrai, pas il y a eu l'époque de la petite couette. Ouais.
Puis moi, je connaissais pas ce milieu-là. Comme non. Je te dis, j'ai pas fait mon chemin. Là. J'ai commencé là. Fait que tu comprends-tu que mon premier coach, mon premier prof, ça a été René. T'sais. Puis honnêtement, c'est probablement le plus beau cadeau que la vie m'a offert parce que il m'a tout de suite en partant appris à respecter les gens avec qui je travaillais, à avoir une éthique de travail extraordinaire. Tu sais, autant qu'il m'a donné la chance au début, puis que c'était pas dans sa cour, fait qu'il m'a dit, regarde ça, fais ça, demain, fais ça, ta. Il m'a aidé, mais il y avait une carrière à faire avec Céline, puis autant qu'il s'est attaché rapidement à moi, puis qu'il a tout de suite commencé à me mettre des plus grands défis. Il a dit, OK, là, tu vas venir avec nous autres en France, à l'Olympia de Paris, tu vas faire la première partie, on veut pas quelqu'un de là-bas, on veut toi. T'es bon, t'es drôle, tu t'imites. Des chanteurs internationaux, ça va être parfait. Jamais allé là de ma vie, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas d'accent. Je sais même pas c'est qui les artistes français dans ce temps-là. On avait juste, on l'avait la radio, tout ça, on savait c'était qui à peu près, mais je connaissais pas le je sais pas qu'est-ce qu'ils disaient, c'est quoi les jokes là-bas, comment, qu'est-ce qui fonctionnait. C'était pas mon monde pendant tout, mais j'étais allé là pas longtemps après.
Est-ce que tu disais tout le temps oui?
À René, oui.
As-tu déjà dit non pour quelque chose?
Une fois. Puis il m'a dit, ouais, mais pense que tu devrais le faire pareil.
Il se contentait pas.
Il avait
pas,
un bon sens de. Il était capable de. Mais les choses que j'ai dit non, c'est parce que je pensais de pas être capable de les faire, ouais. En fait. Puis lui, c'est ça qui m'a appris. Il m'a appris à me faire confiance. T'sais, mais à quelque part, tu comprends, le petit jeune qui arrive, qui n'a jamais rien fait, j'apprenais sur le tas, mais dans des affaires extraordinaires. T'sais, moi, j'ai vécu à quelque part. L'ascension de Céline, je l'ai vécu. Là. Moi, j'ai fait... Je pense que la vraie ascension de Céline part de l'album 2. On s'entend. Avant ça, il y avait une Céline. Mais ouais. À partir de l'album 2, c'est devenu Céline Dion partout, dans le monde entier. C'est l'album le plus vendu francophone. Après ça, moi, j'étais là, moi, quand t'as anglais, puis tout ça, puis let's go. Puis j'ai tout vécu ça. Fait que j'ai tout vu ça. Puis je voyais le travail qu'elle mettait. Je voyais son éthique de travail. Je voyais comment ils respectaient les gens avec qui ils travaillaient, ils gardaient la même équipe, c'était tous des francophones, ils les amenaient partout avec eux autres, tu sais, c'était comme... C'était
Est-ce qu'il vous imposait une certaine discrétion par rapport à sa vie, par rapport à sa carrière, par rapport à la carrière de Céline, ses difficultés qu'elle pouvait avoir?
Non.
Il vous disait absolument
jamais.
Rien.
Moi, jamais,
juste,
René.
C'est juste le respect qui faisait en sorte que vous restiez ensemble, puis il n'y a rien qui sortait de là.
Ouais. Wow. Ouais, parce que quand on le voyait aller, lui, on pouvait pas... Puis tu sais, moi, j'ai le René, c'est comme un... C'est mon deuxième père, tu sais.
Puis t'as été ton
il m'a
beau-père.
Traité comme un enfant. Oui, mais il m'a traité comme un de ses enfants, mais il traitait tout le monde pareil, avec beaucoup d'amour, de respect. Il se souvenait des noms de tout le monde, tout le temps. Il rencontrait quelqu'un, il regardait dans les yeux. Tu sais, moi, je le regardais aller, puis j'étais comme une figure paternelle. Moi, mon père, il est décédé jeune. Il est décédé, il avait 44 ans d'un accident, tu sais. Puis avant ça, il était dans ma vie, mais in and out, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais eu tant que ça, un père vraiment très présent. Fait que, tu sais, René, quand il est arrivé, là, c'est comme... Non seulement c'était un homme que j'avais un respect extraordinaire pour lui, pour ce qu'il faisait, mais surtout pour ce qu'il était. Puis j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné des opportunités à René et à Céline parce qu'il aimait tellement René, tu sais. Il aimait ce gars-là, il aimait... Tu sais, il était respectueux, il était loyal. Tu sais, veux, veux pas... Tu te crées des gens autour de toi qui ont envie de t'aider. Les gens ont envie d'aider René et Céline. Fait que les gros contrats qu'ils ont eu, les grosses affaires, c'est clair que ça vient du fait que ils ont rencontré un homme qui avait le goût d'aider. T'sais. C'était un gars qui était un vrai. T'sais.
OK. Donc, il disait, Marc, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Toi, ouais. pendant ce temps-là, parce que je veux dire, ta carrière a monté très, très, très rapidement, ouais. est-ce que tu te formais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là pour essayer de surveiller un peu les jokes que tu faisais? Parce qu'il y a des règles mathématiques en humour. T'sais, c'est pas tout le monde qui sait ça, mais à l'École nationale de l'humour, ils t'apprenaient ces fameuses règles, les règles de trois et tout ça. Toi, ben, est-ce que tu te formais?
Ben oui, j'étais entouré de gens, metteurs en scène. Ouais. J'ai commencé mon premier metteur en scène, c'est Denis Bouchard. T'sais. Fait que Denis, on s'entend qu'il avait déjà une grosse cabane. Ben ouais, Lulu. Quoi. T'sais, moi, j'ai Lulu. Imagines-tu comment je capote? J'étais un fan fini de l'ancien compte. C'est Lulu, mon. Mais j'ai vite compris que c'était pas Lulu dans la vie. C'est un metteur en scène.
Il était très à ses affaires. Dans
très à ses affaires, très bon. Il m'a dit, écoute, si t'embarques là-dedans, puis j'embarque avec toi, t'es bien mieux d'être solide puis d'être bon. Fait que j'ai eu des coachs quand même qui m'ont aidé. Là, qui m'ont... J'ai appris mon métier rapidement. Mais
t'avais intérêt
j'ai
à
essayé de pas faire les mêmes erreurs. T'sais, quand je faisais des erreurs, justement, puis que j'essayais des trucs, ça fonctionnait pas, j'essayais de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, puis j'essayais de comprendre qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, puis être meilleur, une meilleure version de moi-même la fois d'après, puis tout ça. J'ai toujours aimé être coaché dans la vie, tout le temps, tout le temps.
Parce qu'il y avait l'humoriste, il y avait l'imitateur, puis pendant le temps que tu étais avec René et Céline, tu te promenais un peu partout. Là, tu pouvais pas arriver avec des imitations de gens qui sont très, très connus au Québec et peu en Europe. Tu faisais comment pour t'ajuster?
J'arrivais sur place souvent. Ben, j'avais cette capacité-là à être très rapide, par contre, à faire des voix. J'avais tellement fait ça depuis les dernières années, je ne faisais que ça. Fait que j'avais une facilité à trouver la voix, à travailler cette voix-là, tout ça. Fait que j'avais pas peur, à dernière minute, là, d'apprendre quelque chose. Tu sais, si j'arrivais là le mercredi, ça se peut que le samedi, j'ai 3, 4, 5 nouvelles voix de fait. Là. C'était vraiment une technique vocale que j'avais qui était bien forte.
Tu dois être le pire coloc, là.
Ah, bon, tu veux pas m'avoir là. T'es tanné, puis c'est 100-150 fois en ligne à faire juste une phrase, puis l'intonation, puis d'écouter, puis de gosser. Puis moi, je suis vraiment... J'ai pas un bon coloc. Mais... J'ai appris ça, puis j'ai appris aussi à... Ce que j'ai appris énormément, c'est à m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi.
Ouais.
Tu comprends? Ça n'a pas été difficile, parce que quand j'ai commencé, j'étais tellement au bas de l'échelle que tous ceux que je rencontrais étaient 150 fois mieux que moi là-dedans, connaissaient le métier mieux que moi. Fait que j'ai appris à faire confiance aux bonnes personnes, à écouter, puis à me lancer surtout dans des trucs que... À cet âge-là, j'avais pas peur. Je disais non à rien. J'étais oui, OK, là, on s'en va à telle place. C'est anglophone, c'est pas grave. On va trouver 2, 3, 4 phrases en anglais. Tu sais, j'avais pas peur de rien. Aujourd'hui, je te dirais que j'ai plus cette même... des fois, je fais pas des trucs puis en me disant, regarde, non, je suis pas capable. Je serais pas capable de supporter cette pression-là, de faire ça, la pression qui vient avec. Mais jeune, j'étais let's go. J'étais comme the sky's the limit.
Quand tu as commencé dans ce métier-là, tu avais Céline et René avec toi. Bon, tu les suivais partout. Ta relation avec l'argent, ça a été quoi?
J'en avais pas. J'étais pas payant, là.
Non?
Ben non, j'ai commencé à faire de l'argent tard, moi. Ben oui, des spectacles comme ça. Je faisais des premières parties. J'étais payé comme un gars qui fait les premières parties.
Ça pouvait ressembler à quoi à l'époque?
Écoute, je me souviens pas, mais c'est.
Moi, j'étais persuadé qu'à partir du moment où tu arrivais, où tu étais en tournée avec un Renan Jalil, puis un Céline Dion, tu étais devenu millionnaire. Là.
Ben non, t'es-tu fou, toi?
Ben oui.
Même pas.
On l'est tout un peu, tout le monde pensait ça,
ben
je pense.
Ben non. Moi, quand je faisais les premières parties, là, j'étais payé comme toutes les premières parties. Je me souviens pas, j'avais peut-être 300$ par soir, là, tu sais. Puis là-dessus, il fallait que je mange, puis que j'avais mes perdièmes. Puis... Okay. Non, j'ai vécu.
Puis t'avais combien de premières parties par semaine?
Ben, ça dépendait. Céline, c'était des stretch, tu sais. Des fois, eux, ils partaient. Moi, je faisais des petits shows, des affaires de même. Mais sinon, quand je faisais les premières parties, je pouvais avoir 4-5 soirs. Après ça, ben, il n'y avait pas rien pendant une semaine. Après ça, 2-3 soirs, 4-5 soirs. Tu sais, c'était pas ça. C'est pas là que j'ai fait mon argent.
Mais tu vois vraiment... à quel point, quand tu es à l'extérieur, tu peux penser bien des affaires. Puis quand tu parles aux gens concernés, à quel point ça peut être totalement l'opposé.
J'avais pas une scène. Ça a été long avant que je fasse des sous dans ce métier-là. Mon premier spectacle, j'ai fait 300 quelque chose en 2 ans, puis j'ai pas fait d'argent. Il fallait que je paye la pré-prod, le ci, le ça. J'avais beaucoup de stock sur scène. J'étais avec Juste pour rire. Peut-être ça aidait pas bien non plus.
C'était-tu une pression pour toi de rencontrer des artistes qui étaient très bien naisés, puis là, toi, tu virais pratiquement autant qu'eux autres, mais là, tu étais en début de carrière. Fait que de les accoter une fois de temps en temps, quand tu allais manger au resto avec eux autres, c'était-tu une pression?
Non, j'ai toujours été... Non, pas en tout. Même que ceux qui... Les gens que j'ai rencontrés qui étaient capables de se permettre des restaurants, souvent c'est eux autres qui me le payaient, le restaurant.
Ouais.
Puis sinon, moi, j'étais bien correct avec une poutine chez Gérard, là, tu sais. J'avais pas de stress avec ça, là. J'étais pas... je suis pas venu au monde en watt, là.
Tu sais, moi, on mangeait du poisson chinois.
Ben oui, je m'en souviens. Puis... puis ma relation avec l'argent a toujours été... j'ai jamais voulu faire de l'argent pour avoir de l'argent. J'ai toujours voulu faire de l'argent pour payer des affaires au monde que j'aime. Moi, ça a été ça tout. D'ailleurs, ça m'a causé des problèmes, tu sais, plus jeune, parce que dès que j'avais de l'argent, je me disais, on s'en va à Myrtle Beach, on n'en a pas, nous autres. Ben, il était à mon nez, moi. Moi, le payer, m'en fous. J'ai toujours été comme... je me toujours, même encore aujourd'hui, il faut que je fasse attention. T'sais.
En même temps, on était jeunes. C'est normal
là,
qu'on s'amuse. T'es
encore jeune, j'ai 50 ans, mais des fois, ouais. Tu peux pas. C'est pas grave, je t'invite. Tu comprends-tu? Moi, j'ai comme... je me dis, quand il n'y en a plus, il y en aura d'autres. Mais la générosité, c'est une chose. Mais aujourd'hui, là, j'ai des enfants. Tout ça,
faut faire plus attention.
Avec le temps, j'ai appris à bien gérer mes trucs. Mais tu sais, j'ai fait comme une faillite personnelle une couple d'années. Là, puis... c'est parce que j'en ai fait profiter à beaucoup trop de monde.
Mmh. Vu que tu es un personnage public, j'ai l'impression que vous payez comme deux fois le prix. Tu sais, de un, ouais. De faire faillite, il n'y a jamais personne qui a aimé faire ça, mais non. De deux, comme tu es une personnalité publique, que ça sorte des médias, ben il me semble que c'est raide.
C'est sûr, parce que tu es exposé. T'sais. Les gens. T'sais, toi, tu te connais. Moi, je sais que je suis une bonne personne. Puis quand ça sort, ben ça sort tout croche. Puis là, les gens se disent ah, quel. Puis moi, je me dis ah, j'ai pas passé toute ma vie à être un bon gars pour me faire traiter de même. Tu sais, mais en même temps, ça fait partie du métier. Tu vis avec ça. Je te dirais que c'est pas l'affaire que j'aime le plus au monde. Parce que moi je suis pas un gars qui aime créer des vagues. Là, tu sais, j'aime pas ça les histoires, puis la confrontation. Puis ça, j'ai jamais aimé ça, ni dans mon métier, ni dans ma vie de tous les jours. Tu sais, puis j'essaie de protéger les gens que j'aime. Fait que, tu sais, moi, c'est plus ce qui me fait mal, c'est plus que... mes enfants, mes amis, ma famille, je veux pas qu'ils soient déçus de moi, tu sais. Je trouve ça triste, tu sais, c'est comme ça. Tu sais, je veux qu'on garde cette belle vibe-là, tu sais.
Ouais. Mais tu te laisses-tu le droit à l'erreur dans ton métier?
Ben oui. Ouais. Je fais des erreurs, puis j'en fais pas juste dans mon métier, comme père, comme mari, comme chum, comme tout le monde.
Comme père, des fois, on dit on est foutu.
Ben oui. J'en fais plein d'erreurs. Mais moi, l'affaire que j'ai, c'est que je suis capable d'assumer mes erreurs, puis de m'excuser dans la vie. Ça, c'est quelque chose que j'en ai fait beaucoup. Là. Tu sais, j'ai travaillé avec bien du monde, j'ai fait plaisir à bien du monde, mais j'ai déçu du monde pour telle raison, peu importe. Mais je suis capable de m'excuser avec le temps, tu sais, puis de savoir que c'est de ma faute si ça arrive. Tu sais. Même avec mes enfants, tu sais, j'ai un papa qui, tu sais, en tout cas, moi aujourd'hui, on a une relation exceptionnelle. On a toujours eu une belle relation, mais j'étais pas là souvent. Fait que quand j'arrivais à la maison, puis j'étais parti longtemps, puis c'est Anne-Marie qui avait les enfants, puis que c'était difficile, puis c'est puis ça, puis il y avait des trucs. Quand j'arrivais, je sentais qu'il fallait que je sois le gars qui règle le problème. Tu comprends? Papa était pas là, mais là, papa est là, puis ça va rouler droit. Puis dans ce temps-là, c'est pas de même, ça marche. Quand t'es pas là, veux pas, c'est pas que tu perds ta place, mais. Tu peux pas arriver et dire, gars, là, je suis revenu. J'ai eu cette attitude-là un peu, puis je me suis excusé à mes enfants de ça après. T'sais, j'étais capable d'aller revoir dans la chambre et dire, hey, je m'excuse. T'sais, j'ai pas à te dire ça. Je suis pas là souvent. Là, tout d'un coup, j'arrive puis je vais me faire le policier de la famille. T'sais, puis j'ai toujours été capable. J'ai eu une très, très belle relation avec mes trois enfants. Parce que dans la vie, on fait des bons coups, on fait des moins bons coups. Puis faut être capable, dans les deux cas, d'apprécier les bons coups et d'être capable d'accepter d'en avoir fait des pas bons.
Ouais, puis d'apprendre de nos erreurs. Hey, j'ai plein d'autres questions à te poser. Il y en a une que je voulais te poser. Est-ce que tu étais conscient, dans le temps où tu rencontrais René et Céline Dion, que tu étais à côté d'une des stars internationales les plus incroyables de la Terre?
Ça n'a pas été long, je me souviens.
Moi, j'aurais tellement aimé... puis je fais pas... Bon, je peux faire un parallèle entre les deux, mais j'aurais tellement aimé avoir une discussion avec Elvis Presley, tu sais. Ah, ouais. Parce qu'il était connu au niveau mondial.
Mais René aussi, hein.
Toi, c'était ta belle-mère, là.
Ouais. J'ai eu plein de discussions avec Céline.
T'étais-tu capable de dire, OK, là, c'est pas la star internationale, c'est ma belle-mère, faut que je jase avec?
Sais-tu quoi? Oui. Puis la raison pourquoi j'ai été capable, c'est que elle me faisait filer de même. Céline, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un comme tout le monde. Tu sais, je veux dire, ça ne tente pas de parler de business, là, de show business, puis de chansons. Ben, elle veut parler de toutes sortes d'autres affaires. Elle veut parler des glissades d'eau, si tu le fun, telle place, de voyage, de ski, tu sais, on parlait de tout et de rien. Puis d'ailleurs, c'est une fille qui a les deux pieds sur terre. Tu vas me dire, c'est dur à croire. Quand tu vois, à chaque fois qu'elle sort de chez eux, c'est compliqué. Puis ça a toujours été comme ça. Je te dirais qu'aujourd'hui, peut-être plus difficile pour elle, parce qu'elle n'a pas justement son... sa bouée, tu sais, qui était mm-hmm. René, tu sais, René...
Elle protégeait tout le temps.
Il a, ben oui, mais pas juste protéger, elle, tu sais, il était deux, tu comprends? Il était deux, fait que c'était plus facile. Elle, lui, il poignait un bout, elle a poigné un bout, elle pouvait peut-être... Là, c'est comme elle, tu sais, elle sort à cavale quelque part, puis tout est sur elle, puis en plus, avec tout ce qu'elle a vécu, mais moi, j'ai vécu plein de bons moments avec eux autres au restaurant, là, tu sais. C'est sûr qu'il y avait des bodyguards, tout, mais dans la bulle, c'était formidable, là. J'ai eu des belles grosses discussions, c'est chicané sur des affaires... Mais j'ai rapidement su que c'était une des plus grandes stars que j'allais rencontrer dans ma vie, même au début. Parce que ça se voyait, ça se ressentait, ça, comment elle faisait les choses, à quel point elle était capable de rebondir sur quelque chose. Moi, je voyais la pression, je voyais les choses monter, puis tout ça, puis il répétait l'après-midi, puis il n'y avait rien de prêt, là. Elle n'était pas prête, le band n'était pas prêt, l'éclairage ne fonctionnait pas, puis elle avait un show, là. Elle était à Boston, là, c'est sa première, là.
Puis le soir, ça faisait... Pouf.
Elle montait sur stage, puis elle faisait comme « Let's do it ». C'était complètement fou, tu sais. C'est comme d'avoir Wayne Gretzky, de jouer avec Wayne Gretzky, mm-hmm. tu comprends?
Qu'est-ce qui a fait que Marc Dupré est passé d'humoriste imitateur à chanteur? Ça a été quoi ta décision? Puis c'est quoi le processus derrière tout ça?
La réalité, là, c'est que j'avais fait le tour. J'étais tanné de faire les mêmes affaires, même si je changeais de joke, je changeais de show. J'avais l'impression que je faisais le même truc. Puis, j'avais moins de plaisir à faire mon métier, puis moi, je veux pas. Je veux garder ça beau, je veux continuer à rêver, je veux continuer à avoir des défis. Là, le défi était moins là. Fait que je me suis dit, garde, j'ai toujours voulu faire de la musique, je vais faire de la musique. Là, tout le monde me disait, c'est quoi tu veux faire de la musique? T'as une super carrière. Quand j'ai arrêté de faire les limitations, tout ça, là, les salles étaient pleines. Je n'ai pas arrêté avec des salles vides, puis il faut que je fasse autre chose, il faut que je me trouve autre chose. Ça allait super bien. Moi, j'ai cassé ça du jour au lendemain. J'ai dit, garde, je ne monte pas un prochain show, je veux faire de la musique. Je l'ai fait. Je ne savais pas trop où je m'en allais avec ça. Mais je viens d'une famille de musiciens. Là. Je veux dire, à la base, moi, j'ai été entouré de musiciens toute ma vie. Fait que, tu sais, la musique, je connais ça.
T'avais-tu un instrument que tu jouais régulièrement?
La guitare. Pas tant. Il a fallu que j'apprenne un petit peu mieux pour écrire mes premières chansons. Mais je pensais pas que ce changement-là m'aurait amené là. Parce que quand j'ai commencé la musique, ça allait ouvrir des portes partout. T'sais, j'aurais jamais fait la voix, je n'avais pas fait de la musique. Mm-hmm. J'aurais jamais réalisé l'album de Star Academy. J'aurais jamais écrit de chansons pour d'autres. T'sais, ça l'a vraiment amené un autre... sur un autre chemin complètement différent. Fait que j'ai eu un autre 10-15 ans où j'ai vraiment comme... Wow!
Ouais, mais c'était un recommencement. Tu recommençais
complètement.
Un peu.
Mais avec l'expérience que j'avais acquis.
Ouais. Est-ce que ça a été compliqué de trouver ta voix à toi? Parce que là, t'imitais, ça allait super bien, tout ça. Trouver la voix de Marc Dupré sans avoir l'impression qu'il imite?
Un petit peu au début, parce que je recevais des chansons des autres, tu sais.
Ouais.
Mais la journée que j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à écrire, composer, mais j'avais pas de référence autre que ma voix, tu sais. Fait que j'ai commencé à... C'est vraiment ça qui m'a sauvé d'être auteur-compositeur, tu sais.
Artistes qui te faisaient triper?
Ah, il y en a plein. Moi, j'étais comme... Parce que j'ai tellement été baigné dans toutes les musiques pop, rock, tu sais, pour faire le métier que je faisais, pour imiter du monde, je pouvais pas juste faire Mario Pesce, là, tu sais, j'écoutais autant du Mario Pesce, du Green Day que du... Mais tu sais, moi, à la base, j'étais un gars rock. Moi, jeune, j'écoutais Ozzy, puis Metallica, puis Led Zeppelin, tu sais, Led Zeppelin, c'était plus mon père, puis ça, mais j'écoutais toutes ces affaires-là, là. Mais tu sais, autant je tripais sur Ozzy, autant en même temps, j'écoutais Scorpions, tu sais, c'était comme deux affaires complètement différentes. Tu sais, j'ai trippé, là, sur plein d'affaires. À un moment donné, j'ai capoté un peu plus sur le rap. À un moment donné, j'écoutais de la pop. Mais tu sais, le rock, j'ai toujours aimé ça. Le gros rock, là.
Tu virais en français, tu virais en France puis au Québec. Est-ce que tu as pensé faire des albums en anglais?
Oui, j'ai pensé. Pas avoir une carrière en anglais, mais faire les chansons dans les deux langues juste pour les avoir, peut-être un jour lancer ça. On ne sait jamais pour aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, j'aimerais ça peut-être. Le prochain album à venir doit peut-être faire tout en français, mais faire des versions en anglais.
Okay. Fait que tu mets pas de croix sur ta carrière de chanteur.
Pas en tout. Mais pas du tout.
Ça reviendra quand ça reviendra.
Je travaille là-dessus.
Ouais.
Je travaille là-dessus. Là, j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire ce show-là, puis... Je me suis promis à 50 ans de faire des choses que j'ai envie de faire. Puis j'avais pas d'attente par rapport à ce show-là que je fais en ce moment. Je me suis dit, je le fais parce que j'ai le goût, je le fais pour moi. C'est sûr que j'avais des attentes par rapport à moi, tu sais, de livrer la marchandise puis d'essayer de monter le meilleur show possible. Mais je me suis dit, si les gens suivent pas, je vais le faire un petit bout puis je vais faire autre chose, tu comprends? Puis c'est la même chose, la musique, j'ai pas laissé ça tomber. J'ai mis une pause là-dessus pour pouvoir me concentrer sur quelque chose qui prend tout mon temps. Mais après, je vais refaire de la musique, puis je vais le faire pour moi. Fait que si ça fonctionne, tant mieux si les gens me suivent. S'ils me suivent pas, c'est plate, puis c'est pas ça que je veux, au contraire. Mais si ça arrive, je suis capable de vivre avec ça aujourd'hui, après 30 ans de carrière.
Qu'est-ce qui te permettait le plus d'être à la maison, les shows d'humour ou la musique?
Ni un ni l'autre. Je pensais que la musique m'aurait permis d'être plus à la maison.
Mais c'est ce que je pensais. Je me suis dit, Marc Dupré va se faire son studio dans son propre
maison. C'est ça que j'ai fait. Maison, mais ouais. Ça n'a pas été long que je ne comprenais rien avec le studio. Puis je me ramasse chez du monde qui avait le studio. Fait que non, ça m'a pas... Je vais être honnête avec toi, là, ça... Même si c'est le contraire, je pense que j'étais encore moins là, parce que là, la voix est arrivée, puis tout, puis j'ai fait des années de la voix, puis des fois, je faisais deux années, tu sais, je faisais la voix des jeunes, puis la voix normale, tu sais, dans la même année, c'est beaucoup, là. C'est 6 mois, là, puis après ça, j'étais en tournée, puis ouais. Des gros shows, là. Puis la popularité que ça m'a amené, tu sais, la visibilité que ça m'a donné, ça m'a permis de faire des grandes choses, tu sais, comme le Centre Bell, 2 soirs, tu sais. Je l'ai fait d'autres fois, mais la première fois, c'était 2 soirs, tu sais, 18 puis 19 000 personnes, back-to-back, tu sais, c'est quelque chose, ça. C'est un rêve qui devient réalité, puis c'est pas en musique que je pensais que j'aurais réalisé ce rêve-là. C'est en humour, tu sais. Mais je l'ai fait en musique, tu sais, c'est tellement weird, là.
Mais tu l'as fait?
Je l'ai fait.
Ouais. Je suis bien fier. Hey, je veux pas revenir sur, ta vie de couple et tout ça, mais une fois que tout ça a fini, ouais. Là, quand Marc Dupré devient célibataire, hey, c'est plongé dans le vide, là. Ton affaire, ben oui. Tu peux pas mettre ta face sur Tinder, là?
Non. Non, mais ça m'intéressait crissement, je peux te le dire.
Je comprends.
Quand je me suis séparé, tu sais, c'est pas prévu, là.
Ben
quand,
non.
En me séparant, je me suis pas dit, bon, que je vais faire après? C'est pas ça, là. C'est hyper difficile. Oui. Moi, tu sais, t'es 23 ans, peut-être 3 enfants avec une femme exceptionnelle. Nous, nos chemins se sont séparés pour telle raison, mais on est encore... On est encore proches, là, on se parle.
Ça, c'est important pour les enfants.
Oui, je l'aime beaucoup. C'est la personne. Je pense pas d'être capable d'aimer autant que dans ma vie. T'sais. Je l'aime encore beaucoup. C'est juste que, bon, regarde, je ne peux pas embarquer dans les détails parce que je ne veux pas non plus parler d'une relation que j'ai avec quelqu'un si la personne n'est pas là. Je trouve que c'est... Mais je ne suis pas tombé célibataire. T'sais. C'est arrivé. T'sais. Ça vient avec le fait de se séparer. Puis j'ai pas pensé à ça du tout. Puis je me suis pas dit, bon, ça peut en profiter, pas en tout.
Ah non, mais pas une question de profiter. C'est qu'à un moment donné, les gens savent que tu es célibataire. Là, tu dis, attends un peu. Il y a certains vendredis où j'aimerais ne pas être seul.
Oui, oui, oui. Ben,
c'est compliqué pour vous autres.
C'est compliqué. Là. Mais moi, je vais te dire, j'ai une vie quand même assez saine au niveau. Tu sais, je fais mes affaires. Moi, je m'empêche pas d'aller nulle part. Je m'empêche pas d'aller au Walmart un dimanche après-midi. Tu sais, je fais mes trucs. Je suis bien. J'essaie de vivre une vie normale, pareil.
C'est ce qui te permet d'être groundé sur les gens. Ouais, ouais, ton show d'humour. Mon chum, qui est collègue ici, Jeff Fortin, est allé voir ton show la semaine passée. Puis il dit, regarde, du début jusqu'à la fin, j'étais crampé. Mais le premier 10 minutes, j'ai halluciné.
Oh, ouais, c'est ça. Le premier 10 minutes,
tu restes groundé sur les gens, mais faut-tu vivre des affaires aussi pour pouvoir les raconter? Là.
Exactement. Mais moi, ce que j'aime le plus de mon évolution dans ce métier-là, c'est qu'à un moment donné, ça m'a dépassé tout ça. C'était trop. J'étais plus capable. Puis là, je l'ai eu ce moment-là où je sors plus de chez nous. Tu sais, t'as pas le goût de parler, puis là, tu veux pas aller. Puis moi, les gens, vu que j'avais une proximité vraiment avec le monde, tu sais, le monde, c'est ça, les gens qui pensent qu'ils ont mis le plus de moi à la voix, c'est que j'étais accessible. Tu sais, c'était un bon gars, Marc. Mais ça, c'est tough, là, parce que t'arrives à quelque part, puis le bon gars, Marc, il est occupé, là. Quelqu'un vient te chercher. Puis moi, dans mon cas, c'était pas M. Dupré ou Marc. C'est comme, ah, ben, Marc, bien sûr, t'es un peu Claude, viens. Tu sais, là, j'ai mon panier dans les mains. Tu sais, comme... à un moment donné, les gens sont vraiment rentrés dans ma bulle. Ça a été une période que j'ai pas aimé parce que je savais pas comment le dealer avec ça. Tu sais.
Ouais.
Puis finalement, je me suis rendu compte que dans ce temps-là, tout ce qu'il faut faire, c'est le dire si t'es pas disponible. Tu sais. Gentiment. Excuse-moi, une petite photo vite, oui, mais faut que je continue. Puis j'ai appris à faire ça, j'étais pas prêt à faire ça avant. Avant, je peux passer une demi-heure avec du monde. Moi, j'étais au restaurant avec ma famille, là, je peux passer une demi-heure à la table à côté, puis j'étais rendu avec des shooters.
À jaser.
Puis là, le marais était là comme.
Parce que
qu'on soupe ensemble.
Tu voulais pas paraître du sauvage.
Exactement. Je savais pas comment me sortir de ça. J'étais comme. J'attendais qu'on me dise de m'en aller, tu comprends? Bon, mais là, tu peux aller jouer avec ta gang, je m'en allais comme un cœur. Non, c'était dur. Mais. Ça m'a permis de comprendre un peu aussi ce système-là là, où t'as le droit d'être de mauvaise humeur, t'as le droit de pas être content que quelqu'un te coupe en char. Tu sais. Ça m'arrive, moi, avec, de faire comme... Tu sais, puis je suis pas mieux qu'un autre, tu sais, puis... Mais moi, j'essaie toujours de quand j'étais avec les gens, pas que j'essaie, c'est naturel. Moi, on est au même niveau, tout le monde. Là. Tu comprends pas parce que tu me vois à TV hier que... Je sais que ça peut impressionner, mais 10-15 secondes, après ça, il faut que tu t'en reviennes. Parce que moi, je l'assume pas. Tu sais. Je passe à autre chose.
En fait, toi, t'es dans ton quotidien. Là.
C'est ça.
Tu te considères comme tout le monde et tout ben, ça, oui. Mais c'est vrai que...
Je le suis.
Tu sais, tout à l'heure à la station, quand on t'a fait faire le tour, les yeux qui étaient là, je dis, ah ben ouais, c'est vrai. C'est Marc Dupré, ouais. OK.
moi, comme je te dis, je m'en rends plus compte. Je vais me rendre compte, puis ça m'aide beaucoup quand des gens, mettons, sont auto, puis ils me fixent longtemps. Tu sais, il faut que je fasse un sourire, puis je leur dise bonjour.
Ouais.
Ça règle le problème. Je le fais pas, ça va être pire. Ça va être comme, puis ils vont venir me pogner un moment donné.
Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Renan Gélil qui ouais. se souvenait de tout le monde qui croisait. Tu sais, puis à très plus petite échelle, mm-hmm. tu sais, nous autres, on évolue dans la ville de Québec à la radio, puis c'est un microcosme, la radio à Québec. Là. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a pas vraiment de monde de télé à Québec, il y a plus de monde de radio. Mm-hmm. Puis des fois, il y a des gens qui viennent nous voir, puis on ne sait plus si c'est des gens avec qui on a travaillé par le passé ou si c'est des gens qui nous écoutent. Fait que tu prends tout le temps de jaser avec eux autres pour essayer de déterminer, OK, c'est ben qui oui. eux autres exactement? C'est puis clair. Des fois, ben, c'était quelqu'un qui était comme ami avec ta conjointe. Ou...
Ça m'arrive tout le temps.
Ouais.
Mais ça, avec, j'ai de la misère. Parce que souvent, les gens vont faire « Tu me reconnais-tu?
Yes. »
Oui, de me dire « Salut, Marc. T'sais, on s'y va à telle place. » Non, non. Là, je fais ouais. Où? Oh, tabarnak. Dis-moi, c'est quoi ton nom? Où c'est qu'on s'est vu? Tu comprends? C'est titanant, ça.
T'as pas
tu
le
me
choix.
Replaces-tu? J'espère que oui. Viens pas me dire que tu me reconnais pas encore. Oh, maman! Excuse-moi, maman.
Marc Dupré, on va faire une très, très courte pause. On revient tout de suite. J'ai encore quelques questions à te poser. Ouais. Je veux parler de ton spectacle actuellement que tu fais à Québec. Donc, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. On va faire une courte pause, puis on vient.
Marceau, le soir. Boulevard 102.1. En semaine, 10h. Boulevard 102.1 vous présente un show humain avec un duo de feu. Marceau et Audrey Pinchot animent l'open mic et donnent une voix à monsieur et madame tout le monde afin de mettre en lumière leur quotidien ordinaire et extraordinaire dans l'open mic. L'open mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Du lundi au vendredi, 10h, à Boulevard 102.1.
Aujourd'hui, chez Pharmaprix, ouvrez votre appli PC Optimum, magasinez votre offre sur les produits de beauté et accumulez 30 000 points, une valeur de 30 $. Conditions dans l'appli.
À Québec, un Ford, ça se penchait déjà d'un Ford.
Profitez de l'événement Prix employé sur les modèles 2024 pour célébrer nos 20 ans, en incluant les incitatifs gouvernementaux. Obtenez 11 942 $ en ajustement de prix total sur l'Escape hybride rechargeable 2024, jusqu'à 11 638 $ sur le F-150 Lightning XLT 2024 et jusqu'à 16 525 $ sur le Mach-E Premium 2024. Desjardins Auto Collection, rue Marais à Vanier.
À Québec, un Ford, ça se penchait déjà d'un Ford.
Les plus belles histoires d'amour sont sur Elle Fiction.
On y va?
On y va.
Ta chaîne t'invite à t'évader avec une tonne de films romantiques.
Je veux être avec toi.
Et des séries qu'on aime voir et revoir.
Ça fait plaisir de te revoir.
Abonne-toi.
Inscrivez-vous aux journées portes ouvertes du Collège François de Laval les 21 et 22 septembre prochains. En plus de son programme enrichi en anglais, le CFDL propose une foule d'options stimulantes dès la première secondaire. Sport, arts, sciences, numériques et une offre parascolaire impressionnante. Afin de développer leur autonomie, le Collège offre à ses élèves d'évoluer dans un horaire flexible à des moments déterminés. Réservez votre place aux portes ouvertes des 21 et 22 septembre au collègefdl.ca. Au Collège François de Laval, deviens qui tu veux, rien de moins.
Venez rencontrer les opérateurs du Port de Québec à la fête maritime familiale au Quai 21. Au programme, animation déambulatoire, cadeaux et démonstrations sur le fleuve. La fête maritime familiale, c'est samedi le 7 septembre de 13h à 17h. Détails sur le Facebook du Port de Québec.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Du 5 au 7 septembre, le Festival Saint-Roch XP s'invite à la bibliothèque Gabriel Roy. Profitez d'activités gratuites en famille.
Prestations musicales, ateliers de cuisine, animation et plus encore.
Programmation disponible au bibliothèquedequebec.qc.ca/XP.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par mercado.fm.
Obtenez un chèque cadeau d'une valeur de 250 $ à 125 $ chez Kennedy Pneus et Mécanique.
À juger. Prochaine offre.
Procurez-vous un massage de 30 minutes au Infinima Spa d'une valeur de 87 $ à 43 $50.
À juger, monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Au Mégaparc, les abonnements saisonniers sont maintenant offerts pour un max de turbo-fun dans nos 15 attractions. Que vous souhaitiez vous amuser quelques heures ou pour combiner magasinage et tour de carrousel, votre abonnement vous permettra cette flexibilité. Détails au méga-parc.com.
Salut, c'est PA Méthode. Sainte-Foy Nissan et Beauport-Nissan, avant d'annoncer leurs spéciaux à la radio, ils me les font toujours approuver. Et celui-là... Rédit oui.
Vous aussi, vous direz oui. Durant l'événement Go Nissan, obtenez une réduction électrisante jusqu'à 5000 $ sur l'Aria, le plus beau des VUS électriques. Offert en location sur 48 mois, c'est comme payer 99 $ par semaine et fini l'essence.
Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer.
À compte de 1999 $, rabais gouvernementaux admissibles inclus.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock? Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Ce soir, on a le plaisir d'être avec Marc Dupré. Marc Dupré sur les ondes de Boulevard 101. Merci d'être là. Actuellement, tu fais un show d'humour. Là, tu n'es plus en rodage.
Pas en tout. Pas en tout. Fini, là.
Puis, quand tu t'es assis et tu t'es dit, là, j'écris mon prochain show, tu t'es basé sur quoi pour essayer d'être différent des autres?
Honnêtement, je me suis basé sur ce que je vivais là. Tu sais, j'ai comme... Je venais d'avoir 50 ans. Puis, je sais pas pourquoi... Je me suis mis à repenser un peu à ma carrière, ce que je fais jamais, soit dit en passant. J'essaie toujours de voir en avant, en arrière. Moi, c'est fait, je ne veux pas en parler. Mais je me suis même rappelé toutes sortes d'affaires, puis à raconter ça à mes enfants, puis on riait des espèces d'anecdotes que j'ai vécues, puis du cheminement que j'ai fait. Puis, tu sais, c'était un peu ça. Le show, je voulais un peu passer à travers mes 30 ans de carrière, raconter un peu d'où je viens, ma famille, pourquoi je suis de même. Et c'est important pour moi aussi de casser un peu le côté, l'image du gars trop parfait, parce que je ne suis pas pantoute. Puis, tu sais, la voix, c'est ça que ça a fait un peu. Fait que je voulais casser ça un peu. Regarde, moi, j'ai des travers comme tout le monde, puis je suis pas facile à vivre. Puis moi, avec les affaires qui me font chier, puis les affaires qui me gossent, puis je vais en parler dans ce show-là, ce que j'ai jamais fait avant. Je voulais que ça soit un show qui me ressemble aujourd'hui, à 50 ans, okay. Tout simplement.
C'est-tu si pire que ça, avoir 50 ans?
Non.
Moi, j'ai parlé avec Maître Marc Bellemare, avec qui j'ai le plaisir de jaser à tous les lundis, à tous les lundis soirs. Puis ça doit faire 10 ans à peu près qu'il me dit ça. Puis Maître Bellemare, j'ai devenu pratiquement un ami avec le temps. Là, puis il me dit, Yann, t'as pas aidé à 50 ans. Là, ton corps change, tes cheveux changent, ton humeur change. Puis là,
tout dans la même nuit.
J'arrive fin quarantaine, puis là, je me dis, quand est-ce que mon corps va changer puis que mes cheveux vont changer?
Ça se peut que ça soit 75.
C'est 75?
Non, mais moi, c'est le chiffre. Je sais pas, 50.
Ça fesse?
Moi, ben, écoute, je sais pas si c'est parce que dans les dernières années, j'ai vraiment comme. J'ai eu la chance de vivre un peu comme une rock star en musique, puis tout ça. Tu sais, sur scène, plein de musiciens, puis à côté du guitariste, puis me mettre à genoux, puis tout. Puis je me suis dit, ah, il me semble qu'à 50 ans, ça va être bizarre de faire ça. J'avais comme l'impression que j'avais fait mon temps, tu sais. Puis finalement, c'est le contraire. J'ai arrivé à 50 ans, puis j'ai comme plein d'autres défis dans la tête. T'sais, j'ai encore envie de faire des trucs. Je suis pareil comme à 47, pas à 45. Tant mieux, je touche du bois. J'espère de rester en forme de même. Mais c'est pas une question d'âge. C'est une question de forme, puis de ce que tu as dans la tête, puis dans le cœur. Fait que moi, pour moi, 50 ans, finalement, tout ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné le goût de monter un show d'humour. Ce que ça m'a donné le goût, c'est de faire des trucs que j'aime puis que je veux pas regretter de pas avoir fait. Ça faisait longtemps que les gens m'en parlaient puis qu'ils me disaient, hey, ce serait le fun de refaire un show d'humour, l'imitation, puis ça. Puis j'ai toujours, non, mais en dedans de moi, c'était jamais loin, j'en me tentais. Fait que je me suis dit, tiens, je me lance, puis on advienne que pourra. Tu sais, je suis rendu là, par exemple. La cinquantaine me fait réaliser ça. J'ai envie de faire des trucs pour moi, pour qui me font plaisir, tu sais.
Puis quand t'as vu que tes salles se remplissaient très rapidement, ça a-tu été comme, ah, ils m'ont pas oublié?
Ben, ça a été, ils m'ont pas oublié, puis t'es bien de bon ton show, la pression. Non, j'étais content. C'est comme moi, j'apprécie ça comme ça. C'est fou, chanceux. Tu sais, je suis un des privilégiés de ce métier-là, puis je le sais. Fait que je comprends que les gens qui se déplacent venir te voir en show, faut que tu leur donnes quelque chose de qualité. Puis je prends soin de mon public, tu sais. J'arrive prêt, en forme, puis je tourne pas incohérent, tu sais. Je travaille à toi. Comme ce soir, avant le show, là, j'ai des trucs que je vais arranger. Je vais aller travailler ça sur mon ordi. Tu sais, je veux toujours améliorer puis que ça soit bon, tu sais. Je prends soin de mon public.
T'sais. Y a-tu des humoristes au Québec que t'es fans d'eux? Y a-tu des humoristes américains que tu dis, moi, cet humoriste américain-là, je le trouve incroyable, ou même en France?
Ah oui, il y en a plein. Ben, au Québec, il y en a plusieurs. J'ai vu beaucoup de shows d'humour. J'aime beaucoup Laurent Paquin. J'adore Louis-José.
Moi, j'ai demandé un comparatif sur ton premier 10 minutes là, à Jeff, qui t'a vu la semaine passée. Puis il me dit, écoute, moi, un humoriste que j'aime bien, c'est Mike Ward.
Ouais.
Puis, parce qu'il est corrosif.
Oui, il est corrosif.
Il joke tout le temps, puis je l'adore.
Ben oui.
Puis il dit, si t'aimes Mike Ward, c'est clair et net que tu vas aimer le 10 minutes, tu vas halluciner.
C'est peut-être bien Mike me l'a écrit. Mais est-ce que, écoute, oui, j'aime beaucoup Mike Ward aussi.
Ouais.
Puis je trouve qu'il vit bien, tu sais. Puis il a passé à travers plein d'affaires, tu sais. Il a eu quand même une solide carrière, tu sais. Mais aux États-Unis, j'aime beaucoup. Écoute, je me souviens jamais de son nom. C'est un, c'est sûr que tu le connais. C'est un humoriste italien, là. Américain, mais de sa famille, c'est des Italiens, puis tout ça. Je me souviens plus de son nom, mais c'est mort. Je l'oublie. Mais lui, il me fait rire vraiment beaucoup, beaucoup. Puis en France, il y en a plein, tu sais. Je sais pas, là, l'humour, c'est différent là-bas, mais j'aime cet humour-là, des fois, moi, de parler à quelqu'un qui est pas là, tu sais.
En quoi c'est différent, l'humour, en Europe?
Ben, c'est dans la façon de le faire. Il y a souvent le souvent, ils vont parler à quelqu'un qui est pas là. Tu sais, si leur femme est là, ils discutent avec la femme. Tu sais, je veux dire, c'est souvent, je sais pas comment ils appellent ça, le quatrième mur, là. Tu sais, des fois, s'il parle de son enfant, il parle à l'enfant. Claudel, qu'est-ce que tu fais? Non, tu vas pas me dire. Tu sais, il y a un petit côté théâtral aussi différent. Okay. Tu sais, au Québec, c'est plus stand-up. Tu sais, c'est stand-up direct à l'américaine un peu plus. En France, c'est plus des. Il y a un petit côté théâtral, le fun. Je sais pas. C'est différent. Moi, c'est pas. Ils rient pas des mêmes trucs ou de la même façon. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai Gad Elmaleh, j'ai trouvé exceptionnel.
T'es un bon raconteur.
Un super bon raconteur. Il y en a plein. J'ai de la difficulté à mettre le doigt dessus. Je suis quand même un gars qui aime beaucoup de choses.
Mm-hmm.
Tu sais, moi, je vais aimer quelque chose parce que, tu sais, je pense pas à c'est qui, quel humoriste, qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, je consomme beaucoup de trucs de même sur Instagram, tout ça. Puis j'aime ça, ben, d'ailleurs, parce que t'as pas besoin d'aller voir un show de 2 heures. Là. C'est des petits sketchs de 1 minute et demie, puis je passe à l'autre. J'aime ça comme aller à gauche, à droite. Puis, mais tu sais, il n'y a pas d'humour qui me répugne. Tu sais,
Puis avec tes shows d'humour, est-ce que t'as l'intention d'être plus présent sur les plateformes, ne serait-ce que TikTok, YouTube?
Ben, je devrais. Je me fais...
Mais tes enfants doivent t'en parler.
Là. Ah, God, ouais. T'existes pas, papa.
Ils t'ont dit ça?
Non, mon gars, il m'a dit, t'existes pas. T'es pas là, tu fais rien. Puis en plus, j'ai une plateforme, j'ai des gens, là, tu sais. Mais ouais, il faut. Ouais. C'est clair.
Ben, tu pourrais peut-être y trouver une job. Il dit que t'existes pas. Ça, mais c'est là, lui, ton représentant TikTok.
Le chum à ma fille.
Ouais.
Commence à le faire un peu. Il m'enregistre, fait des petits montages, il me l'envoie. Je fais OK, mais allez. Il faut que je le fasse. Je le sais, on est là. C'est en 2024, c'est ça. C'est comme ça que les gens font la promotion de leur show, la plupart. Ouais. Faut que j'embarque là-dedans, là, sinon, ils vont me faire déconnecter assez vite.
Ben, les jeunes vont apprendre à te connaître par ces plateformes-là, nécessairement.
Ben,
c'est-à-dire, les jeunes, ils écoutent pas la télé généraliste.
Non, pas en tout. La preuve, c'est mes enfants, là, 0-0. Là. Je veux dire, mon gars, il vient de prendre son premier appart, puis il n'y a pas de câble.
Là, ils ont quel âge, les enfants?
23, 21, 18. Mon gars de 23 habite à Magog, s'occupe de ma distillerie. J'ai une distillerie à Magog. D'ailleurs, une à Québec, hein, une à Québec sur Saint-Louis.
Ça va s'appeler comment?
Cherry River. On vend des produits
d'alcool. Fait que ton gars s'occupe des distilleries?
De la distillerie à Magog. Fait que si t'achètes un petit condo là-bas, puis il n'y a pas de câble. Tu disais, t'as-tu le câble? Moi, j'arrive chez eux. T'as-tu le câble? Je vais regarder les nouvelles. Ben, j'ai besoin de câble pour regarder les nouvelles. Regarde les nouvelles sur ton téléphone. Non, c'est trop petit. Il n'y a pas de télé.
C'est un autre monde.
Il n'y a pas de télé.
Puis les deux autres?
Ben, ma fille, elle fait de la musique. Elle fait mes premières parties, d'ailleurs, dans le show d'humour. Elle a un petit 15 minutes où elle fait ses trucs à elle. Elle m'a capote sa musique. Elle est là-dedans avec moi. Fait qu'on a une super belle complicité.
Tu l'encourages là-dedans?
Ben oui, mais tellement. Je l'encourage, je la guide, mais je la laisse faire ses affaires. Puis mon plus jeune, lui, ben, il est à l'école. cégep. Puis là, il vient de se partir un brand de parfum avec un autre chum.
Ah, mais c'est nice.
Ben, lui, il utilise vraiment les réseaux sociaux. Là. C'est tout ouais. passe par là. Là. Puis.
Bon, ben, t'as des profs à la maison pour faire des différents pas. Réseaux. OK. T'es à Québec pour combien de temps, Marc Dupré?
Le 31, c'est le dernier soir. Je suis là ce soir. Je suis là demain, le 23-24. 30-31. Ça, c'est pour cette run-là, mais j'imagine qu'on va revenir. Si tout va bien, on devrait revenir.
Ben oui. Ben, on te le souhaite, dis-moi. On se le souhaite aussi. Puis tu seras réinvité sur les ondes de boulevard. C'est quand tu veux. Ça a été 60 minutes super intéressant pour ma part, du moins. Là. J'espère que tu as apprécié l'expérience.
J'ai adoré.
La Radio de Québec, c'est qu'on laisse le temps à nos invités de jouer.
Exactement. J'ai-tu parlé de mon pudding chômeur?
Non, je pense qu'il reste plus de temps. Tu reviendras la prochaine fois. Marc Dupré, merci.
Merci à toi.
On se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de boulevard. Puis on se reparle demain 10h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci. Bye-bye.
Marceau le soir. Grosse nouvelle croustillante avec le poulet frit Saint-Hubert qui fait un retour pour un temps limité.